sur ces deux points ou l'un de ces deux points, qui veut apporter un point de vue, un éclairage sur la manière dont, alors d'un côté, la dispense des conclusions influe sur la psyché générale, en quelque sorte, du fonctionnement de l'audience devant les juridictions administratives, et puis d'un autre côté, comment la réponse aux conclusions du rapporteur a également fait évoluer la manière dont se construit l'audience qui.
Je peux juste poser une question. Après, ça serait bien que tu donnes la parole au requérant qui se présente sans avocat. Et après,
il pourrait se présenter.
Comment?
Il pourrait se présenter.
Oui, Daniel Lechat. Mais je ne suis pas là comme prof de droit. Je fais plus de droit administratif. Non, mais je reviens tout à l'heure, de toute façon, tu nous donneras la parole. Mais là, c'est juste un point d'explicitation sur la dispense. À quel moment, est-ce que c'est déjà quand vous avez rédigé vos conclusions, je ne peux pas le penser quand même, à quel moment ça se décide et quel est le processus? Parce que vous avez dit le président invite, vous semblez dire effectivement que ce n'est pas le rapporteur public qui décide de ne pas conclure, donc c'est juste un point d'information, très concrètement, comment ça se passe? Ouais.
Juste pour mes, je laisserai parler mes collègues qui sont rapporteurs, enfin, ou notamment, je ne sais plus si tu l'es toi, mais... moi, je me suis contenté de décrire le système avec lequel, de toute façon, l'organisation syndicale que je représente n'est pas d'accord, mais tel qu'il est écrit, c'est-à-dire le rapporteur public propose et le président dispose ou autorise. Ceci dit, est-ce la question que vous posez, c'est plutôt est-ce que c'est comme ça que ça se pratique dans les faits? Et alors moi je me contenterai de répondre que très clairement pas toujours. Et bon après je sais pas ce que mes collègues souhaitent répondre à ça, mais la réponse est de toute façon pas toujours. Ça fait absolument aucun doute.
Il faut peut-être juste préciser que l'USMA et le SGA ont contesté le décret prévoyant la dispense de conclusion. Donc il y aura un arrêt du Conseil d'État sur cette question-là.
Qui veut
Johan, tu veux peut-être
Oui, je suis un peu gêné pour intervenir sur ce sujet, puisque personnellement, je ne me suis pas encore dispensé de conclure. Donc, ça ne veut pas dire que je ne le ferai jamais, au contraire. Mais pour le moment, la réforme commence doucement et chaque chambre cherche un peu son rythme et une façon de travailler. L'analyse que j'ai faite jusqu'à présent, c'est que déjà la dispense pose des questions de principe, mais ça, bon, elle a été prévue par les textes. Et ensuite. L'idée qu'il y aurait un gain de temps important n'est pas forcément justifiée parce que soit on se dispense que sur des dossiers qui sont vraiment très 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 simples, de toute façon on n'y passait pas énormément de temps, soit on pratique la dispense sur une échelle beaucoup plus large, mais là ça pose des questions en termes d'égalité des justiciables et de sens de l'institution du rapporteur public. Donc... voilà ce que je peux dire, mais je ne peux pas vous en dire beaucoup plus à ce stade, parce que la réforme est très très récente. Hein. Donc on n'a pas suffisamment de recul pour voir exactement comment ça fonctionne, avec une précision quand même, c'est que même si les deux problématiques pourraient se rejoindre, parce qu'en cas de condamnation de la France, peut-être qu'on va arriver à un régime de dispense beaucoup plus large, la dispense, c'est quelque chose de franco-français, ça n'a pas... Ça n'a pas pour origine la pression de la Cour, c'est quelque chose qu'on a de nous-mêmes énoncé pour répondre à des considérations statistiques, mais pas à la pression de la jurisprudence européenne.
D'accord, merci beaucoup. Peut-être Camille Bruyel, d'observation sur ce point.
Oui, non, pas sur la dispense des conclusions, juste parce qu'il y avait ces deux thèmes que vous mettiez en lumière, c'est-à-dire la dispense des conclusions et l'inversion des prises de parole à l'audience. Et je me demande, alors peut-être que c'est pour relier aussi avec les autres thèmes que nous aborderons, si elle est satisfaisante, vous le dites tous, cette prise de parole par les parties en dernier. Et finalement, est-ce que c'est pas ça qui est en jeu à travers la remise en cause du commissaire du gouvernement, c'est-à-dire, et du coup, à mon sens, c'est un faux procès, mais est-ce que on ne cherche pas, est-ce que les parties ne manquent pas dans cette procédure écrite de retour? Et est-ce que l'idée d'instituer de manière artificielle le commissaire du gouvernement, rapporteur public, en partie, n'est pas simplement une façon d'exprimer ce besoin de retour dans une procédure écrite qui n'en avait pas beaucoup. Dans la psychologie des partis, je me dis que c'est quelque chose qui doit jouer, de ne jamais avoir de retour. Et le sens d'autres éléments vont dans le sens de cette communication, par exemple les enquêtes à la barre qui se développent également. Voilà, donc est-ce que ce n'est pas une réponse plus fondamentale, enfin une question plus fondamentale qui se pose dans le procès administratif de manière générale, qui est un retour du juge sur les arguments des parties?
C'était historiquement d'ailleurs la raison pour laquelle avait été créé le commissaire du gouvernement, parce que Louis-Philippe, qui avait très mal vécu les affaires de la famille d'Orléans, il avait déposé un recours, il s'était fait rejeter sans même pouvoir répliquer aux arguments de l'administration, nourrissait une vindicte personnelle contre le Conseil d'État, et la solution d'instaurer le ministère public qui parlait, justement, permettait de donner une espèce de corps à l'audience et donc de générer cette forme de retour. Donc ça vient de là, mais effectivement, alors maintenant, deux siècles après, les exigences sont plus les mêmes. Donc je pense qu'il y a effectivement ça à voir avec ça.
D'éviter les frustrations.
C'est éviter les frustrations, c'est exactement ça. Sur l'inversion de la... Pardon.
Merci. Non, juste pour prolonger d'abord par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure, pour être un petit peu plus précis, voilà, je ne vais évidemment pas faire une catégorisation des juridictions ici, c'est pas le but, mais il faut être clair. Dans certaines juridictions, il y a une liberté totale qui est donnée aux rapporteurs publics pour proposer, selon leur conscience, la dispense de conclusion ou pas. Il faut aussi être clair, ça fait... Johan Maury a dit tout à l'heure que la réforme montait doucement en puissance. C'est à la fois vrai et malheureusement déjà plus tout à fait vrai, puisqu'elle est quand même très largement entrée en vigueur et déjà montée en puissance. Et on connaît des juridictions dans lesquelles, oui, l'organisation même de la juridiction, je veux dire l'enrôlement, impose au rapporteur public de ne pas conclure et donc de se dispenser de conclure. Je veux dire, c'est une pratique qui existe, donc c'est pas la peine de le nier, et c'est évidemment une pratique qu'on est nombreux à condamner. Il y a d'autres effets pervers qu'on connaît déjà de cette dispense de conclusion. C'est notamment, et alors là, ça a très fondamentalement à l'intérêt que certains collègues ou certains magistrats accordent à la fonction même de rapporteur public, puisqu'il y a des pratiques qui font que déjà, si le rapporteur public propose régulièrement de se dispenser, on lui propose, entre guillemets, de compenser le manque à gagner, entre guillemets, en faisant autre chose. Donc, du coup, on commence à s'interroger sur, mais alors qu'est-ce que c'est ? Que ce système dans lequel on est censé se dispenser d'une part parce qu'on estime que l'affaire ne mérite pas qu'on se prononce à l'audience, et d'autre part parce que le pendant, c'est quand même pour se concentrer sur les dossiers lourds qu'il mérite. On peut avoir de vraies interrogations sur les véritables motifs qui ont inspiré cette réforme, mais en tout état de cause, sur la pratique, quand on voit que si vous vous dispensez beaucoup, il va peut-être falloir anticiper sur la charge de travail dispensée, on s'interroge quand même sur les motifs de la mesure. Donc voilà ce que je peux dire sur cette question. Donc c'est la dispense de conclusion, elle remet en cause le cœur de métier, le cœur même de l'existence du rapporteur public. Et je crois que c'est ce qui a d'ailleurs été dit par Florence Keller tout à l'heure. Et juste un mot pour le rapporteur public comme médiateur entre les arguments qui sont échangés par les parties d'une part, et puis par les parties et le juge. C'est effectivement le moyen qu'on a trouvé pour le moment de faire vivre cette médiation, cette itération entre non seulement les parties, mais les parties et le juge. Est-ce que c'est le meilleur moyen de donner, comme vous l'avez dit, du retour au justiciable sur la réflexion du juge, etc. La question est posée. Là, je pense que c'est un vrai débat. C'est pour le moment la voie qui a été empruntée. Est-ce que c'est la seule? Est-ce que c'est la plus pertinente? Je crois que le débat est ouvert.
Alors peut-être une ou deux encore brèves interventions sur la question de l'inversion de la prise de parole, et après on essaiera d'avancer en particulier sur le bilan devant la juridiction judiciaire, et puis ensuite sur l'affaire Marc-Antoine elle-même, parce que si on l'heure passe, sinon après on va se trouver un peu bloqué. Il y avait Jean-Marc Perical qui souhaitait parler sur l'inversion de la prise de parole.
Oui, je vais être un peu provocateur, mais c'est un peu de vécu. Je me demande si le fait qu'on puisse parler après les conclusions n'entraîne pas le fait qu'on se trompe d'adversaire. Alors, j'ai dit que je serais provocateur, je le suis, mais j'ai quelquefois l'impression que lorsqu'un avocat parle après les conclusions, il parle au rapporteur. Et il a envie d'engager un débat presque avec le rapporteur. Il oublie qu'il y a un requérant, qu'il y a une partie adverse. Et j'ai vécu ça récemment, c'était pas en métropole, c'était un théâtre en Outre-mer, je ne citerai pas pour être le plus neutre possible, où le rapporteur s'est senti tellement bougé, si je puis dire, qu'il a répondu. Il a répondu, alors il n'y a pas eu un vrai débat qui s'est engagé. Mais je me demande si ça ne risque pas d'arriver un jour ou l'autre, qu'on dérape, et qu'il n'y ait plus de débat entre les parties entre elles, ou entre les parties et les juges, mais entre les parties et le rapporteur. Donc là, c'est un vrai rôle, un vrai nouveau rôle du rapporteur. Je ne suis pas certain que c'est le rôle qu'on souhaite lui confier aujourd'hui. Enfin, peut-être que vous réagirez là-dessus. Donc c'était voilà un petit vécu. Juste un autre mot, on donne beaucoup d'importance à cette oralité, là encore par expérience, je suis d'accord avec ceux qui disent qu'elle est assez limitée. On a vu une profusion ces derniers temps de notes en délibéré, c'est pas par hasard je crois, je ne suis pas certain que le verbe remplace l'écrit et qu'on en soit encore là, on en est loin me semble-t-il.
Madame, oui, je vous remercie. Je suis Marie-Pierre Dupuis, je suis rapporteure publique à la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Et donc je vais essayer d'être brève parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Tout d'abord sur l'inversion, enfin sur la possibilité pour les avocats de répliquer au rapporteur public. Je ne suis pas aussi optimiste qu'un certain nombre de mes collègues parce que je crois que ça a encore plus brouillé l'image du rapporteur public qui effectivement est de plus en plus perçu comme le représentant de l'une des parties, et donc transformé, comme vous le dites, en adversaire. Et il y a eu, à mon avis, aussi un impact psychologique sur la manière de conclure des rapporteurs publics, puisqu'un certain nombre d'entre eux, qui se trouvent évidemment plus exposés, puisqu'on va leur répliquer à l'audience, ont tendance à faire des conclusions bien plus synthétiques qu'avant pour éviter évidemment la contradiction. C'est-à-dire qu'au lieu par exemple de décrire les pièces d'un dossier, on va dire « il ne ressort pas des pièces du dossier que ». Donc moi à mon avis il y a un effet pervers puisque le rapporteur public peut se retrouver inhibé par cette réplique des parties à ses conclusions, alors qu'en réalité les parties doivent se répliquer entre elles, puisque ce qui les intéresse quand même c'est le jugement qui sera rendu, les conclusions ne sont que, même si elles ont un intérêt, ne sont que l'opinion d'un magistrat. Donc à mon avis c'est sur ça qu'ils doivent continuer à se battre. Sur le sens des conclusions qui est donné avant l'audience, je suis effectivement d'accord pour qu'il soit quand même suffisamment développé pour qu'il ait un intérêt. Le problème quand même c'est que de plus en plus on nous demande qu'il soit de plus en plus développé et puis plus tôt, parce que vous comprenez, 3 jours avant on n'a pas le temps de vous répliquer. Donc là encore je crois que le rapporteur public est transformé en adversaire de l'une des parties, celle à qui il va donner tort. Et qu'on se trompe encore une fois puisque le rapporteur public c'est son avis et c'est certainement pas le jugement qui sera rendu. Et là quand même je crois que certains de mes collègues parfois feraient mieux de conclure en toute indépendance et effectivement d'oser faire des conclusions contraires au jugement qui savent parfois devoir être rendus pour que les parties ne pensent pas qu'à l'audience quand ils écoutent les conclusions ils écoutent en réalité le jugement qui sera rendu. Ensuite sur la dispense, alors je fais partie de l'USMA je fais partie des rapporteurs publics qui ne se dispensent pas de conclure par principe et non pas parce que la réforme serait trop récente ou non, c'est vraiment une position de principe à laquelle je suis attachée. D'abord je ne vois pas en audience ne pas me lever pour certaines parties. Ensuite si les affaires sont simples, Alors, le temps de rédaction, après avoir pris connaissance du dossier, puisque c'est quand même l'idée, me prend entre une demi-heure et trois quarts d'heure. Et lire mes conclusions me prend 10 minutes ou 5 minutes. Donc, le gain de temps, il est dérisoire. Et d'autant plus dérisoire qu'on va me demander bientôt, si je me dispense de conclure, de participer à d'autres tâches dans ma juridiction. Quoi dire de plus ? Le gain de temps. Et alors, sur ces rapporteurs publics qui seraient incités à ne pas conclure, je rappelle quand même que le rapporteur public, normalement, d'après le texte, peut conclure sur toutes les affaires. Ce n'est qu'une possibilité pour lui de se dispenser. Et donc, je crois qu'il doit être légaliste et appliquer la réforme telle qu'elle, c'est-à-dire ne pas se dispenser s'il estime qu'il n'a pas à se dispenser. Alors, évidemment, il y a la technique des rôles hyper chargés qui font qu'évidemment, quand on vous colle 50 ou 60 dossiers pour une audience, c'est impossible, en fait, de conclure. Eh bien, à mon sens, dans ce cas-là, il faut faire envoyer un certain nombre d'affaires. Voilà.
Merci pour ces propos qui réagissent et qui nous interpellent. Est-ce qu'il y a encore là-dessus
Je voudrais dire de assez brève. Sur le dernier point, sur la dispense de conclusion, qui est une question qui, bien qu'elle ne s'applique pas au Conseil d'État, évidemment intéresse tous les membres de la juridiction administrative et en particulier tous ceux qui ont exercé cette fonction. Moi, je voudrais juste, je ne prends pas position sur les pratiques, qu'elles soient conformes ou non conformes au texte, dire que j'ai l'occasion très fréquemment d'aller en tribunaux ou en cours, soit dans des visites qu'on appelle les visites du contentieux, soit au titre d'inspection, puisque je suis membre de la mission d'inspection. Et depuis que la réforme a été mise en œuvre, j'en profite à chaque fois avec mes collègues pour discuter avec le collège des rapporteurs publics de la juridiction à laquelle on rend visite, de l'esprit de la réforme et puis de la manière dont elle est mise en œuvre. Je voudrais juste rappeler que, comme vous l'avez très justement dit, ce qu'il faut appliquer, c'est le texte. Et le texte prévoit un double verrou. Proposition du rapporteur public, accord du président de la formation de jugement. Et donc, si... alors, je ne suis pas là pour sonder les âmes, quel que soit le motif. Je ne prendrai pas parti sur le motif. Mais si un rapporteur public, après avoir vu le dossier, estime qu'il doit conclure, il ne propose pas la dispense de conclusion et personne ne peut l'y contraindre. Ça, c'est quelque chose qui est très important et il ne faut pas perdre de vue cette garantie essentielle. C'est en conscience que le rapporteur public doit estimer, s'il le souhaite, pouvoir se dispenser. Et j'ajouterais que ce n'est pas seulement le besoin de conclure ne repose pas seulement sur des questions d'ordre juridique, mais peut bien évidemment, surtout dans un contentieux très incarné comme le contentieux des étrangers, être nourri de la volonté d'exposer un désaccord factuel. Et si jamais le rapporteur public n'est pas d'accord avec ce qu'il y a dans le dossier qu'on lui a transmis, et qu'il estime devoir conclure, notamment pour exposer et dérouler son désaccord aux collègues qui siègent, et bien sûr qu'il faut le faire. Il ne faut pas, bien évidemment. Et ça, je dirais que le fait que deux collègues n'aient encore jamais proposé de dispense des conclusions montre bien que ce verrou qui est l'initiative du rapporteur public fonctionne. Sinon, alors après, ce n'est pas le débat ici, il y a les histoires de pratique. Je ne rentre pas là-dessus, mais moi, je trouve que c'est la garantie essentielle, c'est que l'initiative part du rapporteur public. Alors évidemment, c'est compliqué parce qu'il faut placer le curseur. Vous avez très bien dit un certain nombre de choses sur c'est quoi l'économie réelle de temps. Bon, voilà, ça, on pourra en parler si vous voulez. Ça dépend aussi des pratiques des collègues. Pour quelqu'un qui ne rédige pas ses conclusions avant de les prononcer, se dispenser de les prononcer, comme on a forcément vu le dossier avant, ne présente aucun intérêt. Pour quelqu'un qui les rédige systématiquement, ça peut faire gagner du temps. Bon. Et sur le temps d'audience, moi j'ai eu des retours, ça m'a intéressé d'entendre que parfois les parties ne viennent pas lorsqu'on a fini. Alors, moi j'ai eu des retours différents, où les parties venaient et profitaient, si je puis dire, de l'audience, pour exposer leur point de vue et nourrir l'audience, des plaidoiries et éventuellement des échanges avec le président de juridiction. Alors,
évidemment, les stratégies du justiciable, c'est au justiciable et au requérant d'en décider, certainement pas au juge, mais je dirais que, oui, quand on apprend qu'une affaire est dispensée, de plus fort, pour parler comme certains avocats, il faut venir à l'audience pour dire ce qu'on plaider. Et donc, je pense que le fait, il ne faudrait pas que ce soit dissuasif pour les parties de venir. Voilà. Parce qu'il y a une audience et que cette audience se déroule, même quand il n'y a pas de dispense, quand il y a une dispense des conclusions, avec la possibilité pour les parties de faire valoir leur point de vue. Voilà, ça c'est une petite chose mais, que je croyais important de rappeler. La deuxième, c'est sur, ça m'intéressait aussi ce que vous avez dit, la situation, le ressenti des rapporteurs publics exposés à la possibilité d'une réplique qui pourrait les bouger, les déstabiliser, les mettre en difficulté. Alors, le roi avait deux corps, je crois que le rapporteur public en a deux aussi. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais redévelopper tout à l'heure sur les questions d'accès au dossier. Il a évidemment cette dimension personnelle, individuelle, qui est la garantie de l'indépendance de la fonction. Il ne parle qu'en son nom et personne ne peut le mandater pour dire telle ou telle chose. Mais il a aussi un corps institutionnel. Et ce corps institutionnel, on en parlera, c'est d'incarner cette fenêtre de visibilité sur le processus juridictionnel en marche, en rendant compte d'un certain nombre de choses. Pas nécessairement parce qu'il est d'accord ou pas d'accord. Alors là, évidemment, quand j'entends que certains collègues s'estiment devoir conclure en accord alors qu'ils ne le seraient pas dans leur fort intérieur, ça me choque tout comme vous. Hein, tout comme vous. Jamais il faut en arriver là, dans l'idéal. Mais il y a cette dimension, alors on n'est pas là pour être Saint-Sébastien criblé de flèches, mais enfin, on est exposé. C'est une belle fonction parce qu'on est exposé. On est exposé avec une dimension de gratification personnelle. On a une occasion de parler, de dire des choses, d'influencer, d'écrire des pages qui parfois sont publiées. Donc, on est exposé dans le bon sens du terme. On est exposé aussi avec une dimension quasi sacrificielle. C'est-à-dire que, voilà, on est là pour prendre des coups, processuellement parlant. C'est-à-dire, on est là pour que les parties s'approprient ce travail en marche et réplique. Alors évidemment, il y a toujours le risque qu'on se trompe d'adversaire et qu'on se dise, quand on est avocat ou justiciable, mon ennemi, c'est le rapporteur public qui vient de conclure dans le sens de mon adversaire. Et donc, on le mitraille. Bon, eh bien, tant pis si ça sert à une amélioration de la circulation des échanges à l'audience dans le but de permettre aux parties de mieux s'exprimer jusqu'au dernier moment, juste au moment le plus utile, l'entrée en délibéré, et si ça permet aux juges qui vont délibérer d'être complètement éclairés. Donc, il faut accepter, c'est le second corps du rapporteur public, de transporter, et c'est ça qui fait la beauté et la difficulté du métier, c'est le point d'équilibre entre ce que je véhicule à titre personnel, ce que je défends parce que c'est ma conscience, mon indépendance qui sont en jeu, et ce que je transporte aussi à titre institutionnel pour le bon déroulement du procès. Alors évidemment, parfois c'est pas confortable, mais on n'est pas là pour faire des métiers confortables.
Est-ce que je peux... Oui, mais justement, parce que puisqu'on parlait de rôle chargé tout à l'heure, à mesure que nos conclusions s'allongent, les affaires suivantes auront moins de temps qu'on puisse leur consacrer. Est-ce que si vous avez des choses à dire, vous pourrez peut-être les réintégrer dans les points suivants. Je voudrais qu'on avance d'un cran et qu'on se pose la question de ce que l'affaire qui nous réunit ce matin pose comme enjeu, et donc au fond discuter ce que l'accès à la note du rapporteur et au projet de jugement peut poser comme problématique en termes d'égalité des armes, ce que l'accès à la séance d'instruction peut également poser comme problématique du point de vue de l'égalité des armes, et peut-être d'un point de vue plus général ensuite sur le statut du ministère public, hein, qui est en débat depuis l'affaire Esclatine, membre de la formation de jugement, membre de la juridiction, juge qui parle, etc. Peut-être est-ce que Camille Brouillel pourrait nous dire un mot de ces questions-là ou...
Alors, juste une chose, monsieur le professeur, je suis votre ordre du jour avec beaucoup d'intérêt, et je vois que nous avons sauté le bilan de l'application Reinhardt-Esliman-Caïd à la Cour de cassation, que
c'était, je ne sais pas très bien pourquoi, je pensais pouvoir incarner un petit peu, et je m'attendais à l'incarner, et je trouvais que c'était d'ailleurs un élément très intéressant,
vous avez
précisément pour montrer à quel point il y a pu y avoir effectivement une... Alors, vous m'autorisez à parler une seconde de cette question ?
Plus qu'une seconde, c'est un oubli de ma part, tout à fait, d'un infrapetita qui mérite d'être sanctionné.
Non, juste un mot sur cette question que je m'autorise à aborder puisqu'elle était dans le débat et qui me semble importante parce que il faut bien comprendre que effectivement l'application qui a été faite à la Cour de cassation des affaires Reinhardt-Simon-Caïd a été assez radicale. C'est-à-dire que suite à ces décisions, il y a eu une volonté qui a été la volonté du premier président, qui était le premier président Canivet à l'époque, de dire eh bien écoutez, c'est très simple, puisque il y a cette difficulté là. Le plus simple, c'est que l'avocat général n'ait plus accès aux éléments du rapport, au projet d'arrêt, ne participe plus à la conférence, puisque à l'époque, l'avocat général assistait à la conférence qui était la conférence préparatoire à l'audience, et donc n'ait plus accès à l'ensemble du travail de la Cour, travail préalable, travail écrit qui va aboutir à l'audience. Bon. Et donc on a remplacé, on a dit ben très bien, on va dire qu'on communique un rapport, alors que c'est un rapport enrichi. En réalité, le rapport dont vous disposez devant la Cour de cassation est un rapport qui a rarement beaucoup d'intérêt, puisque c'est le résumé de la procédure, le résumé de vos propres moyens, l'identification de la question de droit qui est posée, et puis quelques éléments de jurisprudence qui sont susceptibles de pouvoir vous indiquer la manière dont le rapporteur entend voir les choses, mais c'est un document qui est un document un peu énigmatique. Bon. À quoi cela aboutit ? Cela aboutit d'abord pour les avocats généraux eux-mêmes. Les avocats généraux eux-mêmes se sont retrouvés complètement démunis. Il faut bien voir que matériellement, à la Cour de cassation, il y a un avocat général pour une dizaine de conseillers rapporteurs. Donc même avec toute la bonne volonté du monde, et même en pensant que les avocats généraux sont des super juges capables de réinstruire l'ensemble du procès, il était matériellement impossible qu'ils refassent l'ensemble du travail de fond, sauf en partant de rien et en n'ayant pas le travail qui était préalable du rapporteur. Donc, ça aboutit à ce que les avocats généraux choisissent, d'une certaine manière, les décisions dans lesquelles ils avaient vocation à présenter un avis. Et puis, surtout, Mathias Guillaumard, vous parlez des deux corps du rapporteur public, de la même manière, je pense qu'il devait y avoir deux corps aussi de l'avocat général, il est évident que le rôle de ces magistrats qui ne sont pas des magistrats qui participent à la formation de la décision, mais qui prennent la parole pour donner un éclairage, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, un rôle d'interface. Et c'était un rôle d'interface pour nous, fondamental, en tant que parti. C'est-à-dire que quand l'avocat général concluait à la cassation ou au rejet, il exprimait évidemment son propre avis, mais il exprimait aussi son avis éclairé par le travail qui avait été le travail préparatoire de la juridiction. Et on pouvait, là encore une fois, prendre attache avec lui en disant, bon, vous avez conclu dans ce sens, est-ce que vous pensez que vous allez potentiellement être suivi ? Est-ce que vous pensez qu'il est opportun que je puisse présenter des observations écrites ? Toutes ces choses-là allaient dans le sens d'un enrichissement du travail. Il faut bien voir qu'on est devant les cours suprêmes, qu'on soit devant le Conseil d'État ou devant la Cour de cassation. Le but, globalement, au-delà du fait de ce que votre parti puisse obtenir satisfaction, c'est que la jurisprudence se construise et que pour que la jurisprudence se construise, le juge soit le mieux éclairé possible. Et je pense qu'il y a là un rôle qui est un rôle fondamental des partis à ce que, au fond, les cours puissent rendre des décisions qui soient ce qu'elles veulent, c'est leur choix de juger dans un sens ou dans un autre, mais en ayant parfaitement pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, et c'est le rôle de l'enrichissement de l'avocat d'essayer de donner jusqu'au bout au juge l'ensemble des éléments pour qu'il puisse statuer de façon parfaitement conforme. Or, ce rôle-là, qui était le rôle d'interface que pouvait représenter l'avocat général, nous l'avons aujourd'hui perdu, puisque nous avons communication d'un avis de l'avocat général dans les affaires où il décide de présenter un avis écrit, mais ça n'est jamais que son avis à lui. C'est l'avis d'un magistrat, qui est un magistrat compétent, puisque c'est un magistrat qui est attaché à une chambre, donc qui exprime son opinion
et l'opinion de ce qu'il croit devoir être la solution qui va être rendue par la Cour de cassation. Mais ça n'est jamais que son avis personnel. Et donc, il n'a pas du tout la même influence que celle qu'il était susceptible de pouvoir avoir lorsque, précisément, l'avocat général était susceptible de participer, ou en tout cas d'avoir une vision, d'avoir une connaissance, d'être cette fenêtre sur le travail qui était le travail de la juridiction. Et aujourd'hui, donc, ce qui est certain, c'est que l'aboutissement de tout cela, l'aboutissement des décisions Slimane Kaïn et la solution radicale qui a été choisie à l'égard des avocats généraux a abouti effectivement à une mise à l'écart, très certainement, par rapport à ce que disait Serge Lama, une mise à l'écart de l'avocat général au sein de la Cour de cassation, qui n'a plus du tout la même fonction. Et d'ailleurs, ça a créé de très grands dysfonctionnements à l'époque entre le premier président et le procureur général de la Cour de cassation, qui a vécu de façon très difficile cette décision du premier président de dire « vous n'aurez plus accès au travail de la Cour ». Et je pense qu'on va en reparler, mais j'en profite puisque je parle de l'avocat général ici, il faut quand même insister, c'est évidemment un point qui est un point déterminant, sur la différence statutaire qui existe entre l'avocat général devant la Cour de cassation et le rapporteur public devant la juridiction administrative. Le rapporteur public, il appartient à la juridiction administrative. C'est évidemment ce qui avait été défendu par le gouvernement lors de la récresse, et ce n'est pas sur ce point-là que la Cour européenne s'est arrêtée, mais je pense qu'il faut le répéter de façon régulière pour que la Cour européenne puisse le comprendre. Il faut bien comprendre que le rapporteur public n'est pas l'adversaire objectif de l'un ou de l'autre, il appartient fondamentalement à la juridiction de jugement, il participe à l'œuvre du juge, et à ce titre, il n'a aucune raison de devoir être strictement rapproché de l'avocat général tel qu'il existait devant la Cour de cassation, qui lui appartient à un ordre différent et qui n'est statutairement pas le même magistrat que le magistrat de la Cour de cassation, et qui par ailleurs, historiquement, a toujours été beaucoup moins associé à la création de la décision que ne l'a été historiquement le rapporteur public.
Merci beaucoup. C'était un point qui méritait d'être plus que rappelé, mais d'être... Et d'ailleurs, je me posais une question. Est-ce que depuis la décision historique d'appliquer de cette manière-là, en quelque sorte de manière radicale, Slimane Kaïn, il y a eu des évolutions, des retours en arrière, ou est-ce qu'on est resté sur cette ligne-là?
On est resté sur cette ligne qui est toujours la même, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, l'avocat général, il ne dispose normalement pour instruire son dossier que du rapport enrichi dont on a parlé tout à l'heure, qui n'est encore une fois qu'un résumé des moyens et quelques éléments de jurisprudence susceptibles d'être utiles, et que c'est avec ces éléments-là qu'il va présenter son avis, dont nous avons aujourd'hui la disposition, mais qui évidemment a beaucoup moins de poids pour nous dans sa lecture. C'est toujours satisfaisant d'avoir un avocat général qui va dans votre sens. Mais on n'est pas du tout certain que ce que dit l'avocat général soit en connexion quelconque avec ce qui est en train de se mettre en place dans la formation de jugement. Et donc, évidemment, c'est d'autant plus difficile de pouvoir apprécier la nature de ce qui est susceptible de pouvoir être la décision à venir. On parle de retour. Évidemment, le but, ce que je disais tout à l'heure, le but de ces fenêtres d'ouverture dans le cadre de la procédure, c'est de se rendre compte que, pour une raison ou pour une autre, le dossier est appréhendé par la formation de jugement d'une façon qui ne semble pas correspondre à la réalité ou à votre impression de la réalité du dossier, et de venir dire à la formation de jugement, attention, il y a ces difficultés-là. Ce que vous êtes, semble-t-il, en train de percevoir du dossier, vous vous trompez, ou en tout cas vous ne l'envisagez pas de la bonne manière, au regard de tel ou tel point. Et de la même manière, les personnes qui répondent ce que vous disiez, les personnes répondent au rapporteur public et se trompent d'adversaire. Moi, je n'ai jamais répondu au rapporteur public parce qu'il était rapporteur public. J'ai toujours répondu au rapporteur public à l'égard de la juridiction de jugement, parce que précisément, du fait de ce double corps du rapporteur public, ce qu'il exprime, eh bien, c'est quand même une certaine vision, une certaine préfiguration de ce que pourrait être la décision à venir. Et donc, quand vous avez un rapporteur public qui ne conclut pas dans votre sens, vous allez vous lever en disant « Mais attention, vous, non pas rapporteur public, mais vous qui allez juger, si vous suivez votre rapporteur public, je tiens à vous dire qu'il y a tel et tel problème auquel, manifestement, en tout cas, le rapporteur public n'a pas fait référence, qui sont des éléments déterminants dans votre délibéré à vous. Quand on parle après le rapporteur public, on ne parle pas à son adversaire, on parle au juge qui va vous juger. » Et on parle par rapport à ce qu'on a compris de ce qui pouvait être le processus de jugement qui va aboutir à la décision.
Merci beaucoup. Il est 11h, on arrive à la mi-temps. Je propose par conséquent qu'on prenne la petite pause qui était prévue. On a fait l'avant d'un certain point de vue, et après la pause, on pourra faire l'après. Hein, je pense que du coup, ça se positionne assez bien. Voilà, donc vraiment une toute petite pause pour qu'on ne perde pas de temps pour la suite du débat. Bien, nous allons reprendre. On n'entend pas.
On a le droit de faire.
Il est parti.
Bon.
Bien, nous allons reprendre. Et je vais donner tout de suite la parole. Ça marche bien mieux que nous allons reprendre.